Alors, s'il vous plaît, tournez en 1 Timothée, chapitre 3. Et aujourd'hui, on va parler de encore plus de passages qui inspirent certaines polémiques dans l'Église, comme on a vu la semaine dernière. Sauf que aujourd'hui, on va prendre le controverse des versets 1 au lieu d'attendre la fin. C'est pas moi qui décide, mais c'est l'Écriture qui le décide lui-même parce que c'est dès le premier verset de chapitre 3. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de comment est-ce que l'Église est ordonnée. Et au travers des siècles, l'Église a interprété plusieurs versets de chapitre 3, littéralement, et ils sont arrivés, grosso modo, à trois types d'interprétation littérale. Première, c'est que il y a un type d'église qui est régi par la congrégation. Donc, tous les membres décident sur comment va fonctionner l'église. Ils s'appuient sur ce texte, mais parmi les trois, c'est celui que je vois le mal parce qu'on parle dans notre texte, vous allez voir, de ceux qui sont dans le ministère et qui dirigent le ministère et qui dirigent l'Église. Et donc, on ne voit pas la congrégation ou les membres qui dirigent, mais plutôt ceux qui dirigent. Alors, il y a une autre possibilité. Donc, ce sont un collège des anciens. Et ils interprètent aussi ces versets, littéralement en disant, si Paul, il instruit Timothée, donc, à voir et de choisir des évêques ou des anciens, c'est parce que ce sont des anciens, en fait, qui s'occupent de l'Église et qui dirigent l'Église. Troisième possibilité, aussi une façon littérale d'interpréter le texte, c'est plutôt qu'il y a donc un dirigeant qui travaille donc avec les anciens, mais qui est le responsable de l'Église. Et aussi, il s'appuie sur ce texte avec le simple fait que si c'est Timothée qui choisit donc les anciens, qui dirige les anciens, si ce n'est Timothée. Bon, c'est un grand débat. Et ce genre de débat, ça ravage toujours l'Église, donc on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Quelque chose qui est débattu pendant des siècles ne va pas être résolu dans 2-3 minutes ici, maintenant. Mais je vous dis tout simplement que notre Église ici, donc nous sommes une Église qui est donc dirigée par un pasteur et normalement, donc, c'est avec donc, les anciens avec qui ils travaillent, mais donc, c'est le pasteur qui dirige. La chose que j'aimerais bien relever, et c'est pour ça aussi qu'il y a ces débats, ce n'est pas... Parfois, c'est parce que les gens ils sont convaincus de leur point de vue en disant que voilà, leur point de vue, c'est le meilleur. Mais de nos jours, surtout, le débat continue parce que il y avait des excès dans tous les trois types de gouvernement. Et avec ces excès, il y avait par exemple, des pasteurs qui sont tombés dans le péché et qui a jeté l'opprobre sur toute l'Église. Et ça a vraiment blessé terriblement des gens. Il y avait des conseils d'anciens qui étaient tellement divisés que l'Église n'avance pas un centimètre. Et puis, il y avait des congrégations qui ont dirigé l'Église qui aussi l'ont échoué parce qu'ils n'étaient pas dirigés par des hommes spirituels, mais plutôt par des hommes ou des femmes d'affaires. Alors, je crois que la réponse à tout ça vient, en fait, d'un pasteur qui est décédé, il est évêque, le Seigneur, mais qu'il avait, je crois, une très bonne vision sur ces choses. Il a dit, ce n'est pas nécessaire de se battre, débattre sur ces choses. L'histoire a fait l'Église comme c'est, et donc on accepte, on va dans une Église en acceptant le gouvernement où il est, que chacun soit convaincu de sa position. Mais la plus importante chose, ce n'est pas quelle est la forme de gouvernement qui est représentée dans l'Église. C'est est-ce que l'Église est dirigée par la tête de l'Église et l'auteur de l'Église qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, s'il est la véritable tête de l'Église, c'est lui qui dirige tout. Bon, il prend la forme qu'il veut. Ici, donc, comme j'ai dit, c'est plutôt l'exemple d'une Église dirigée par un pasteur. Mais je vous avoue que ici, c'est mon grand souhait que ça soit donc la tête, le véritable dirigeant, c'est donc Jésus. Et c'est comme ça que je crois que nous avons la seule espérance pour avancer et pour que l'Église fonctionne en bonne santé. Jésus doit être la tête et c'est lui qui dirige, qui construit son Église. Et donc nous arrivons au premier verset de notre chapitre. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Alors, le mot qu'on a pour évêque, c'est un mot qui, aujourd'hui, ne veut pas dire la même chose que qui est dans le texte. En fait, dans le Nouveau Testament, on utilise les termes qui nous donnent aujourd'hui, pasteur, ancien, évêque, avec différents mots, mais dans le Nouveau Testament, c'était presque des synonymes, avec des légères nuances entre... Ce n'était que dans le 1er et 2e siècle que l'Église commençait à penser à un évêque comme quelqu'un qui est au-dessus de plusieurs églises. À l'époque, c'était plutôt l'apôtre qui implantait des églises. Et puis, un évêque ou un ancien ou un responsable, on utilisait différents mots, sachant aussi que c'était écrit par différentes personnes. Par exemple, dans le livre aux Actes, on utilise le mot ancien ou responsable. Ici, dans l'épître écrit par Paul, là, on parle d'évêque, mais en Tite, il va parler d'ancien. Et aussi, en Pierre, on va utiliser encore un autre mot. Donc, vous voyez, c'était le commencement et je ne pense pas que c'est la peine de trop insister sur les petites nuances de chaque mot à l'époque où c'était écrit. Avec le temps, les choses sont changées. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que je suis donc un pasteur ou un responsable de cette église, mais personne ne m'appellera un évêque. Les choses changent. Donc, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. C'est très important de relever cet encouragement qu'il donne. Paul, il était vraiment merveilleux avec ce don de chercher les gens pour les former et de les encourager à entrer dans le ministère. Paul, il dit, si quelqu'un veut être évêque, il cherche une bonne activité. Jacques dit, si quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait trop de maîtres parmi vous, parce que, et on va parler de pourquoi il dit ça. Mais la vision de Paul est assez intéressante. Parce que Paul, quand même, il est toujours entouré des hommes. Il a toujours un Tite qu'il envoie, ou un Timothée qu'il envoie, un Stéphanas, ou un Apollos, un Précis, un Aquila. Il y a toujours des gens autour de lui. Et ça fait partie de ses dons. Et c'est une bonne chose, il dit. Surtout sachant que, en pas trop longtemps après cette écriture, il va avoir beaucoup de persécutions. Alors, la poste d'évêque ou d'ancien, ça ne va pas être le plus convoité dans l'Église. Parce que tout le monde sait que lorsque la persécution tombe, devinez qui sera le premier à tomber. Mais il dit quand même, c'est une belle activité. C'est une belle activité parce que c'est quelque chose qu'on fait avec le Seigneur, mais c'est quelque chose qu'on fait pour l'Église de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut commencer à faire un jour au lendemain. C'est quelque chose qui est préparé pendant des années, voire toute une vie. C'est une belle activité. Et ça a la capacité de changer des vies et ça a la possibilité d'édifier les gens, sauver les gens. Et quelles sont donc les exigences? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On dirait, c'est normal. Il faut qu'il soit irréprochable. Parce que si on peut lui reprocher quelque chose, on peut être certain que le monde va aussi le reprocher et va s'appuyer sur ça. Et l'Église ne peut pas grandir. Et on va semer le discrédit par tout le ministère est fait. Et on voit justement le fruit des ministères qui ont aujourd'hui une mauvaise réputation à cause d'un responsable qui faisait des choses illégales. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme ou littéralement c'est un homme d'une femme. Alors, ça, donc, c'est ouvert à beaucoup d'interprétations. Littéralement, c'est donc un homme d'une femme. Alors, on a dit que certainement, c'est pour écarter la possibilité de la polygamie. Et oui, certainement, il y a ça, mais il faut dire aussi que à l'époque, il faut dire que déjà le Seigneur, lorsqu'il parlait du mariage, il parlait entre un homme et une femme. Et lorsque Paul parlait dans d'autres écrits aussi de mariage, c'était toujours dans le même contexte. Alors, il est très peu probable qu'il y avait un problème de polygamie à ce niveau-là. Mais c'est quand même bien de souligner les choses pour qu'il soit bien clair là-dessus. Parce que si on nous laisse une petite ouverture, c'est là où, bien sûr, on commence à justifier sa position et tout. Ça peut dire aussi, donc, quelqu'un donc, qui a été marié, puis sa femme est morte, est décédée, puis il a repris une autre femme, ou bien que pour des raisons, pour n'importe raison, il a divorcé, puis il a repris une autre femme. Et le problème avec ceci, c'est que si nous adoptons ce point de vue-là, qui est très rigide, très strict, nous nous trouvons en contradiction avec 1 Corinthiens chapitre 7. Où il dit que c'est tout à fait permis de prendre une femme, et si nous sommes dans un mariage avec une incroyante et elle quitte la personne, de les laisser partir. Et ça contredit aussi ce qu'il va dire plus tard en chapitre 4, lorsqu'il parle des doctrines des démons où on dit aux gens de ne pas se marier. Donc, on a du mal à accepter ça comme interprétation d'un ancien. Alors, marié d'une seule femme, c'est plutôt, pour citer par exemple, j'ai oublié son nom, John MacArthur, dans la grammaire et dans son placement dans la liste, ça parle plutôt de son caractère. c'est qu'il n'est pas un homme qui aime les femmes. Il ne court pas après des femmes. S'il est marié, donc il est marié et il aime cette femme. Il est un homme d'une femme. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'un ancien ne peut pas être marié. Mais s'il est célibataire, il est de ce même genre. Il ne court pas après des femmes. Mais il est un homme fidèle. Et donc un homme d'une femme. Il est sobre. Il est sensé. Il faut qu'il soit sage. Il faut qu'il soit sociable. Il faut aussi qu'il soit hospitalier. Quelqu'un donc qui peut inviter des gens, qui peut être même pour inviter les autres, pour pas seulement inviter, mais quelqu'un qui est bien avec les autres. Il faut qu'il soit quelqu'un qui aime les gens, en fait. Apte à l'enseignement. Qu'il ne soit pas adonné au vin. Ça ne veut pas dire forcément qu'il ne boit jamais de vin, mais qu'il n'est pas donné au vin. Et de nos jours, on peut parler donc des médicaments, hein, ou même tragiquement des drogues. Je ne veux pas dire, par exemple, si imaginons qu'il a un cancer, évidemment, il doit prendre des médicaments habituellement pour soigner sa maladie. On ne parle pas de ça. Mais on connaît des gens, tristement, qui se sont échoués dans le ministère parce qu'ils se sont... Ils sont dépendants sur des médicaments prescrits, certes, mais qui sont aussi narcotiques et qui ont développé des problèmes qui ressemblent à des toxicomanes. Effectivement, si on est dans un tel état, c'est la même chose que quelqu'un qui est donné au vin. On ne peut pas diriger donc une église, on ne peut pas diriger des autres si on est dans un tel état. Ni violent. Imaginez, hein. La dernière chose que vous voulez, c'est que votre pasteur vous frappe sur le joue dès que vous disiez quelque chose de contraire. Mais il faut qu'il soit conciliant, qu'il soit pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison et tient ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et je connais des pasteurs qui, pour une raison ou pour une autre, se sont donnés de temps sabbatique justement pour concentrer sur leur famille, pour s'arrêter, justement. Et ça, c'est, comme vous voyez ici, une réaction très biblique. Et ça prouve, en fait, ça authentise leur appel. Parce qu'il faut savoir diriger, donc, sa maison. Notez aussi, dans toute cette liste, c'est presque enterré, au milieu de pas mal d'autres choses, l'enseignement. Bien sûr, il faut qu'ils sachent enseigner la Bible. Mais ce n'est pas la première chose. Et ça, c'est important parce que de nos jours, on dirait que c'est plutôt donc, le pasteur et son ministère public qui comptent le plus. Or, c'est faux aux yeux de Paul. En fait, ce qui compte le plus, c'est ce que personne ne voit, sauf sa famille. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est pourquoi, si quelqu'un veut avancer dans le ministère, même s'il ne serait jamais pasteur, il faut qu'il concentre sur la vie quotidienne, le jour après jour. Est-ce qu'il cultive sa relation chaque jour avec le Seigneur? Est-ce qu'il lit sa Bible chaque jour? Est-ce qu'il veut marcher avec le Seigneur chaque jour? Parce que celui qui marche avec le Seigneur chaque jour et qui lit sa Bible chaque jour est quelqu'un qui va s'avancer. En fait, dans le monde spirituel, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va être utilisé demain. Ne pensez pas que Dieu va vous utiliser demain si vous n'avez pas fait la préparation. Et la préparation se fait chaque jour sans que personne ne voie. Qu'il ne soit donc pas nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et justement, pourquoi est-ce qu'on précipite à nommer des gens? Souvent, c'est parce que leur ministère public, leur façon de parler est vraiment attirant. Parce qu'ils ont un don pour enseigner. Et ce n'est pas bon. Non, il faut que la vie de la personne développe. Parce que ça, c'est beaucoup plus important. Et puis après, viendra le reste. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, il vaut mieux des dirigeants qui ne sont pas le plus habiles oralement, mais qui ont une réelle vie avec le Christ, avec le Seigneur, que l'inverse. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit, dans le piège du diable. Parce que le diable est toujours dans le business de détruire et écraser les responsables. Sachez donc que chaque personne qui se lève pour faire le ministère, il sera donc jugé plus sévèrement, il sera tenté plus sévèrement, et c'est là où nous rejoignons ce que Jacques voulait dire, en Jacques chapitre 3, verset 1. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Donc c'est sobre, c'est vraiment du sérieux, mais c'est une belle activité. Et puis, on parle des diacres. Un diacre, c'est une belle phrase ou une formule pour, en fait, un servant, quelqu'un qui sert l'Église. Le diacre, pareillement, doit être respectable, éloigné de la duplicité. Donc, il ne faut pas qu'il sème le discorde, qu'il médise les autres, des excès de vin et des gains honteux. Ce qui est intéressant, c'est que le pasteur, quand il dit il ne faut pas qu'il soit, ou le responsable, il ne faut pas qu'il soit donné au vin, c'est un peu plus fort. Mais pour le diacre, c'est plutôt l'excès du vin. Et ça montre quand même un apprentissage. On ne devient pas évêque un jour au lendemain, mais on apprend, et puis on devient diacre. Et puis on apprend, et puis éventuellement, si le Seigneur le veut, il appelle, et puis, vous voyez, où les gains honteux, s'il est un homme d'affaires, il faut qu'il soit honnête, tout simplement, qu'il conserve le mystère de la foi, d'une conscience pure. Autrement dit, il faut qu'il ait une bonne doctrine, qu'ils connaissent la bonne doctrine, qu'ils sachent discerner le bien et le mal, ça c'est le base. Mais aussi qu'ils sachent des choses vraiment de base. L'évangile, par exemple, la vie éternelle, ces choses qui sont tellement importantes. Comment nous sommes sauvés, le salut, la rédemption. C'est important, des bonnes bases. C'est pour ça d'ailleurs que nous faisons tout ça le vendredi soir. Et verset 10, il dit, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Donc, ce n'est pas normal qu'on devienne évêque si on n'a jamais servi à l'Église. Mais c'est normal qu'on sert. Et ne pensez pas que le service se limite seulement à ce qui se fait devant les autres. En fait, le diaconat et le service pour le Seigneur, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant même que le culte commence, après que c'est terminé. Et on ne parle pas juste de mettre des chaises non plus. Il y a beaucoup de services qu'on fait les uns pour les autres juste en parlant les uns les autres, en priant les uns pour les autres. En fait, même travailler dans le monde d'une façon honorable, avec les yeux ouverts pour là où Dieu peut vous diriger pour aider les uns les autres. Tout ça, c'est le ministère. Et donc, c'est bien que vous soyez donc éprouvés, que nous soyons tous éprouvés là où nous sommes. Et donc, et après, oui, pour servir l'Église et oui, pour les autres choses aussi ensuite. Mais c'est toute sa vie. Et ça ne se limite jamais juste un dimanche, par exemple. Et puis, verset 11, « Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Deux possibilités d'interprétation. D'abord, c'est tout naturel que lorsqu'il dit « que les femmes », il parle donc des femmes des évêques. Il se peut aussi qu'il parle des femmes des diacres. Mais il ne parle pas aux femmes de façon générale, parce qu'il est très normal qu'il y ait une femme non-croyante qui vient dans l'église pour voir ce que c'est, et on ne va pas le jeter dehors parce qu'elle est médisante ou autre. Ou bien une femme qui vient de se convertir et puis, bon, non, elle travaille, elle n'est pas encore dans le diaconat, non. Mais il y a donc des femmes qui sont dans le diaconat, qui travaillent et qui font un grand travail pour le Seigneur. Et nous avons un exemple de ça en Romains 16, verset 1. Donc on a un nom, ça aide d'avoir un nom, un exemple où justement le Seigneur appelle les femmes à travailler pour lui. Romains 16, verset 1. « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Chrée. » Donc apparemment, elle est tellement bien dans son ministère que même l'apôtre Paul lui donne des éloges. Alors ça, c'est quelque chose. Alors nous voyons que ça, c'est une possibilité. Alors, et pas seulement une possibilité, quand même. C'est même souhaitable. Mais il y a donc des recommandations spécifiques à ces femmes. Qu'elles soient respectables, donc respectées dans leur ministère, pas vues de mauvais œil parce qu'elles ont des choses à reprocher. Et donc dignes de respect. Qu'elles ne soient pas médisantes. Donc, ça, c'est assez évident, mais bon, il faut qu'ils le disent. Hein. Une femme qui est dans le ministère et qui médit ses autres équipiers ou les autres personnes, elle n'avance pas le ministère. Donc, il faut qu'elle soit sobre. Il faut qu'elle soit sobre, qu'elle se tienne bien. Et qu'elle soit fidèle en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, cette même chose. Donc il ne faut pas du tout qu'un diacre, un homme, qui court après des femmes. Malheur, si c'est le cas. Bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est aussi une très belle activité. Tout le monde n'est pas appelé à être responsable, mais de dire qu'on a toute personne qui veut le faire, et nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. De dire qu'on a, ça c'est un honneur, et c'est quelque chose qui donc amène un certain honneur aussi à l'Église de Dieu. succès, bien que vous soyez honorable. Et puis nous arrivons maintenant au cœur de ce message. En fait, la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre, il nous le dit. « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Voilà. Il a écrit cette lettre pour que Timothée sache, pour que nous sachions comment l'Église doit fonctionner, qui est donc l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors attention, lorsqu'il dit c'est la colonne et l'appui de la vérité, ça ne veut pas dire donc que c'est l'Église qui donne la vérité par ses traditions et par ses liturgies et par ses décrets. Ce n'est pas ça ce qu'il dit. En fait, c'est la vérité qui s'appuie donc sur l'Église. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ qui a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Donc, Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, il s'appuie donc sur l'Église dans ce monde. Et il l'utilise comme une colonne dans ce monde. Mais ce n'est pas à l'Église de déterminer qu'est-ce que c'est la vérité et dire que voilà ce que celui qui est donc le plus grand évêque de l'Église qui dit donc la parole de Dieu. Non, nous avons la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Ça, c'est, on pense, une des très anciens cantiques de l'Église que Paul y cite pour Timothée. Certainement, il n'y avait pas de mélodie, c'était quelque chose plutôt dit, chanté peut-être, mais de façon atonale. Mais pourquoi pas, si quelqu'un est inspiré, d'ajouter un peu de musique pour aujourd'hui, pour le faire revivre. Mais c'est un ancien donc, hymne cantique de l'Église. Alors, regardons ce qui est dedans. Le mystère de la piété. Mystère. C'est quelque chose qui était caché avant, dans l'Ancien Testament, mais révélé dans le Nouveau Testament. La piété, donc l'attachement à Dieu, sa sainteté. Comment ça a été caché avant? Comment est-ce que c'est grand? Ben voilà ce que c'est, la sainteté, l'attachement à Dieu, la piété en fait. Celui qui a été manifesté en chair, on parle de Jésus-Christ. Dieu, qui est dans la forme d'un homme. Et puis, justifié en esprit. Ça ne veut pas dire qu'il était pécheur et puis il a reçu la justice de Dieu. Ce n'est pas ça. Justifié plutôt dans le sens naturel, moderne. C'est-à-dire qu'on témoigne de sa justice. Par exemple, trois fois dans la vie de Jésus, il y avait cette voix qui et a été entendu pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui descend sur lui dans la forme d'un colombe, justifié dans l'Esprit. Hein. Aussi, lorsqu'il était ressuscité, il soufflait sur les gens, il leur donnait le Saint-Esprit, justifié dans l'Esprit. Il est apparu aux anges. On pense à la place des anges dans toute l'incarnation de Jésus. Il y avait l'annonce de sa naissance. Il y avait les anges qui l'ont servi dans le désert lorsqu'il jeûnait les 40 jours et les 40 nuits. Il y avait un ange qui l'a conforté lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémané. Il y avait des anges qui ont annoncé sa résurrection. Il y avait des anges aussi le jour où il fut monté aux cieux pour annoncer aux disciples, « Hé, il est parti, vous pouvez vous en aller. » Les anges qui ont entouré tout le ministère, en fait, de Jésus. Et puis, prêcher parmi les nations. Ça se passe toujours. Il a été cru dans le monde. Et les gens croient toujours. Il vient. Parce que le salut vient dans la foi en Jésus-Christ. Il a été élevé dans la gloire. Et là, on a déjà évoqué. Comme il fut monté dans les cieux. Une belle chanson cantique de son jour. Et puis, chapitre 4, il y a une pratique maintenant du ministère. Chapitre 3 nous a donné le fonctionnement du ministère. Chapitre 4, c'est comment ça se fait ou quelle direction est-ce qu'on prend. Et puis il dit, mais l'Esprit dit expressivement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux discours marqués au fer rouge. Dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc l'Esprit avertit Paul, soit par prophétie, soit par les autres choses. Donc on peut penser à ce que Christ a dit par exemple en Matthieu 24 ou lorsqu'il parlait contre les pharisiens et les scribes. Mais là c'est intéressant, donc l'Esprit dit expressivement, donc ça continue et dit que dans les derniers jours, il va y avoir des gens qui vont abandonner la foi. On a déjà vu ça en 2 Thessaloniciens, où Paul il dit, donc, avant que Christ revienne, il va y avoir cette apostasie, il va y avoir l'Église qui va donc rejeter la bonne doctrine, il va y avoir des gens qui, comme ils disent ici, ils vont abandonner la foi. Aussi, s'ils abandonnent la foi, c'est pour s'attacher à autre chose, parce que la nature déteste une vide. Donc, qu'est-ce qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs par des doctrines des démons. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître la bonne doctrine. Des choses très pratiques que, si vous entendez que c'est Jésus plus autre chose, pour que vous soyez sauvés, vous pouvez être sûr que ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est Jésus et Jésus seul qui sauve. Mais si c'est Jésus plus le livre du moment, ou c'est Jésus plus le magazine Autour de Garde, je ne sais pas, Jésus plus vos bonnes œuvres, Jésus plus autre chose, vous êtes en train d'écouter une fausse doctrine et si ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'où? Des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Et c'est bien de le dire tel que c'est. Comme ça, on peut regarder les choses telles qu'elles. Aussi, il y a par l'hypocrisie des faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Et c'est là où on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un, il est bon orateur, il peut dérailler aussi et il peut convaincre un grand nombre de personnes. Il peut commencer à prêcher des fausses doctrines et être tellement convaincant qu'il y a des milliers de gens qui le suivent en enfer. Et c'est pour ça que la vie de la personne compte. Mais sa doctrine aussi. Et c'est pour ça aussi que les diacres sont mis à l'épreuve. Et puis, il donne quelques exemples. Et là, nous voyons des choses qui ont déjà ravagé l'Église. Où ils prescrivent de ne pas se marier. On a vu là où l'Église s'est prononcée très catégoriquement en refusant que les hommes se marient, qu'ils restent célibataires, ça fait des grands ravages. Et c'est connu partout dans le monde. Bien, on parle aussi des aliments, mais ils disent, ce n'est pas l'aliment qui compte. Tout peut être pris, mais avec prière et la parole, c'est sanctifié. On rend grâce, c'est une bonne verset pour pourquoi on rend grâce avant de manger. On s'est un peu abusé le contexte, mais c'est quand même une bonne chose. Mais on parle surtout de vivre dans la parole et dans la prière. Et ça nous garde de ces mauvaises choses. Et même apprendre les choses qui sont neutres au bon moment. Et avec gratitude. Et ne pas être trompé dans les petits détails. Avec ceci, on se rappelle aussi ce que Paul a dit en 1 Corinthiens lorsqu'il parlait de la liberté chrétienne. En parlant des gens qui, par conscience, ne peuvent pas manger, par exemple, des viandes sacrifiées aux idoles. Là, on parle des aliments. Chers frères, amis, si votre conscience ne vous permet pas de manger quelque chose, c'est mieux d'obéir à votre conscience. Si vous êtes en compagnie avec quelqu'un et vous voyez que leur conscience ne leur permet pas de le faire, il vaut mieux que vous absteniez pour eux dans leur présence. Parce que sinon, vous utilisez votre liberté pour une pierre d'achoppement pour votre frère ou votre sœur pour laquelle Jésus-Christ est mort. Donc, par amour pour le frère ou pour la sœur, on dit non. Et puis, peut-être dans un autre contexte, vous pouvez dire oui, merci, sans hypocrisie. Mais si on est dans la prière, dans la parole, en menant une vie pour plaire au Seigneur, ce discernement nécessaire, même si ce n'est pas à 100%, mais ce discernement nécessaire, ça vient tout naturellement. Et si on fait des erreurs, n'oubliez pas surtout de dire « Je suis désolé, je m'excuse, demandez pardon. » Et puis on continue. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes, exerce-toi à piété. Donc, ça, ce n'est pas seulement le pasteur qui doit faire ça, c'est bien quand même que tout le monde, ayant une connaissance de la vérité, qui soit capable de refuter ou de contrecarrer ces mauvaises doctrines. Pas pour s'aimer les disputes, pas pour la polémique, mais dans l'amour pour l'édification de tout. Et puis, une autre chose absolument intéressante, il dit... Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. De nos jours, tout est basé sur le physique, jusqu'au point où on ne veut pas des gens qui sont plus âgés d'un certain âge. On veut seulement ceux qui sont les plus beaux, qui ont l'apparence bien, qui sont le mieux habillés et tout. Bon, l'exercice physique, d'accord, c'est peut-être bon. Surtout, on ne veut pas détruire le corps que Dieu vous a donné, mais ce n'est pas tout. Et donc, c'est bien de mettre les choses importantes. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est donc la piété. Parce que on a des physiques différents. Nous sommes tous créés différents. Nos corps sont différents. Et même les athlètes les plus poussés dans leur sport, ils n'ont que quelques années vraiment pour bien faire leur travail. Et après, le corps commence à souffrir à cause de tout ce qu'ils ont fait. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Il est intéressant aussi qu'il y a quelques siècles, on mettait beaucoup plus sur le physique dans le sens de la piété, en pensant que si on pouvait faire le plus de pénitence. Alors là, ça nous faisait approcher de Dieu. Et ça, c'était ça plutôt l'idée que Paul avait à cette époque. Pas de nos jours, ce n'est pas vraiment l'idée des gens de faire une pénitence. Mais je trouve intéressant en observant notre société que quand même, l'apparence physique remplace ça. Et je crois que ce verset, ça, c'est vrai, un peu d'exercice. Ça aide à vivre mieux et peut-être plus longtemps. C'est bien. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus. C'est une parole certaine, verset 9, et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Il est le sauveur de tous. Il est mort parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il n'y a que ceux qui croient qui sont sauvés. Mais nous luttons et nous travaillons dans cette espérance. L'Église chrétienne, surtout, si quelqu'un veut faire le ministère, il faut qu'il sache que c'est du travail et on travaille dur. Il faut qu'on travaille dur. Pas par nos propres forces, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est parfois ça qui est le plus épuisant après. Parce qu'on trouve qu'on a travaillé beaucoup plus et beaucoup plus dur qu'on l'aurait fait dans notre propre force. Et c'est normal puisque le but vaut la peine. C'est glorieux. C'est le salut et l'édification. Et si les gens doivent travailler dur dans le monde, c'est normal aussi qu'on travaille dur pour le Seigneur. C'est normal. Ça fait juste partie de la vie. Et voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. En fait, à l'époque de Timothée, un ancien était normalement quelqu'un qui a dépassé ses cinquantaines. Alors, il peut avoir 40 ans et être toujours un jeune. Vous voyez comment les choses sont changées. Mais encore, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Et si Dieu vous a appelé, faites-le. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation et l'enseignement et néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Donc avant qu'il est allé dans le ministère, il était apprenti, ils ont mis les mains, ils ont prié dessus. Comme moi, avant que je suis devenu pasteur, il y avait un collège des pasteurs qui ont imposé les mains, mon roi de l'huile aussi. C'est rien de plus normal. C'est une reconnaissance du travail que Dieu a fait en eux. Et puis il dit, applique-toi, sois tout entière à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Autrement dit, si tu ne t'appliques pas, si tu te lances dans n'importe quoi, tu peux égarer les gens et toi-même aussi. Mais ce n'est pas une verset pour dire qu'on travaille en regard de notre salut, qui serait quand même en contradiction avec la doctrine de la grâce de Dieu que nous avons étudiée dimanche. Donc que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, qui est un don gratuit de Dieu. Enfin, Paul, il parle à Timothée. Timothée qui est appelé à être responsable. C'est un appel spécifique. Il y a un seul Timothée et il n'y a pas tout le monde qui est appelé à diriger des églises. Or, vous êtes par contre appelé à faire quelque chose parce que Dieu vous a investi chacun avec un don spirituel et un plan qu'il a pour votre vie. Comment découvrir son plan? Comme celui qui fait le ministère, le responsable de l'Église. Chaque jour, en lisant sa Bible, en priant, en exerçant donc le piété chaque jour, c'est là où petit à petit, pas à pas, on découvre ce que Dieu a pour nous. Et quoi que soit votre don, votre ministère, ou peut-être Dieu vous a donné votre don et vous n'êtes pas encore rentré pleinement dans votre ministère. Quoi que soit votre ministère, faites-le de tout votre cœur, comme pour servir le roi des rois, parce que c'est la vérité. Et aussi, appliquez-vous pour que votre, comme il dit, pour que votre progrès soit évident de tous. C'est-à-dire que si Dieu vous a donné un don pour servir, servez de tout votre cœur et avancez afin que vous soyez le plus serviable de tous. Si vous êtes évangéliste et vous avez un don réellement pour l'évangélisation, continuez, progressez, avancez. Enseignement, c'est évident, c'est dans le texte, mais si c'est encouragement, si c'est quelqu'un qui est vraiment doué dans la prière, bon, quoi que soit votre don, avancez à l'édification de l'Église. Parce que si au bout d'un moment, vous faites votre ministère de façon à ce que l'Église n'est pas édifiée, ce n'est pas un réel progrès. Et là, Paul, il dit à Timothée de s'avancer pour qu'il progresse, pour que l'Église progresse. Et ainsi, si vous le faites de cette même manière, pour que donc l'Église soit édifiée, voilà. Imaginons ce qu'on peut faire. En fait, ce ne serait pas nous, mais ce serait Dieu en nous. Et c'est ça ce qui est magnifique. Prions.